Bienvenue sur le podcast du site La Catabase. Mon nom, Pierre-Philippe Lefebvre. Je suis sociologue de formation, enseignant par passion. Mon objectif, c'est de proposer des rencontres avec des gens. Les personnes que je rencontre sont intéressantes parce que, de manière typique, elles ont vécu des blessures ou des chocs qui leur servent de moteur de transformation. Les transformations proposées sont individuelles ou sociales. Le but, c'est toujours de proposer quelque chose plutôt que de tout simplement se contenter d'énoncer. Alors, parfois, ça peut arriver qu'on s'indigne, mais toujours avec comme objectif d'aller de l'avant. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous aimez liker, si vous aimez partager, si vous aimez écouter encore. Bienvenue au deuxième épisode du podcast La Catabase. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que je le fais seul. J'espère que ça va être quand même intéressant. C'est un épisode où j'essaie de répondre à une question qui est fréquemment demandée en classe. La question est la suivante. Quels sont tes conseils pour éduquer un enfant? Plus spécifiquement, les élèves me demandent quels sont tes conseils pour éduquer un enfant pour qu'il ne soit pas trop anxieux, pour qu'il ne prenne pas les défauts que tu nous as exposés. Il faut savoir qu'en classe, je présente fréquemment, surtout dans les techniques, puis parfois dans certains cours, la théorie de David Riesman. David Riesman est un sociologue qui a eu ses heures de gloire dans les années 60. Dans les années 50, il a publié un livre, alors après la Deuxième Guerre mondiale, sur l'évolution des types de personnalités en Amérique. Son modèle est absolument génial, son modèle vieillit quand même bien. Le génie de l'auteur, c'est qu'il présente trois types de personnalités seulement dans lesquelles tout le monde peut se retrouver. Alors, trois types de personnalités qui ont des défauts marqués et des qualités marquées. La dernière personnalité présentée, c'est l'extro-déterminé. Un individu extro-déterminé, et ça, M. Riesman l'écrit dans les années 50, c'est un individu qui va être très sensible aux autres, à ce qu'on pense de lui. Il va avoir de grandes qualités interpersonnelles. Par contre, l'individu extro-déterminé, va développer des problèmes d'anxiété. Son levier psychologique, c'est l'angoisse diffuse. Alors, c'est un individu angoissé, un peu à la manière de Woody Allen. C'est pas très bien s'il est dans la bonne direction, c'est pas très bien s'il a fait le bon choix, doute de lui-même. Le génie de l'œuvre, c'est également qu'un sociologue, quelque part, avait prédit que les troubles anxieux allaient être en montée. Pour ceux qui ne le savent pas, les troubles d'anxiété sont les troubles de santé mentale les plus communs en Occident. Alors, je pense que cette théorie-là est toujours très, très porteuse. Un des défis en classe, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a vu la théorie, on essaie de l'appliquer, on essaie de regarder autour de nous et on essaie de s'améliorer soi-même. Mais il y a toujours quelqu'un qui se dit, « Ben moi, je suis impliqué dans la vie de certains enfants, j'aimerais ça avoir des trucs ou des conseils pour éduquer les enfants. » Un cours de sociologie au collégial, c'est pas nécessairement la place pour donner des conseils sur l'éducation des enfants. Est-ce que je suis un expert dans l'éducation des enfants? Pantoute. J'ai une certaine expertise, un certain regard. Ça me vient de la sociologie, ça me vient de ce que j'ai lu. Ça me vient également du fait d'être parent. Parce que j'ai des enfants à la maison, une grande de 12 ans et un petit de 3 ans. J'essaie de faire mon mieux. Le gros de mes lectures pour devenir parent, je les ai fait en préparation, bizarrement, à un cours de technique d'éducation à l'enfance que j'ai donné il y a quelques années. C'est aussi une période pendant laquelle ma conjointe, qui est formidable, là, ma conjointe était enceinte. Alors, je me préparais à devenir un père. Il y en a qui vont dire, ben, tu l'étais déjà pendant la grossesse de ta blonde. Je le sais, là. Effectivement, j'ai toujours essayé de m'impliquer, mais je me préparais vraiment à la venue de ce formidable enfant qui a viré complètement ma vie à l'envers, mais que j'adore. Ce que j'ai lu à l'époque, qui m'a le plus inspiré, étrangement, pour plein de raisons, ça ne me vient pas des livres d'éducation. J'ai lu un livre de Franz Kafka qui s'appelle « Lettre au père ». L'ouvrage est une longue lettre que l'auteur Franz Kafka a adressée à son père sans jamais lui remettre. Parce que c'est une démarche dans laquelle il voulait faire la paix, mais il n'a pas eu le besoin de lui remettre la lettre. Alors, deux extraits qui m'ont hautement troublé. Le premier, « Il me souvient, par exemple, que nous nous déshabillons souvent ensemble dans une cabine. Moi, maigre, chétif, étroit. Toi, fort, grand. » Large. Déjà dans la cabine, je me trouvais lamentable, et non seulement en face de toi, mais en face du monde entier, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. J'ai lu ça et ça m'a troublé, j'avais l'impression de me retrouver avec mon père qui était Cet homme-là qui pour moi était immense et invincible, et qui, souvent sans le vouloir, m'écrasait de sa simple présence, de ses jugements, de sa grande virilité et de sa force. Ceux qui me connaissent le savent, j'essaie d'être fort moi-même, ça inclut être fort physiquement, j'ai toujours eu peur, surtout à la lecture de cet extrait-là, de quelque part intimider mon fils plus que de l'inspirer, puis qu'on se retrouve côte à côte, et puis effectivement, quand t'es parent, t'es la mesure de toute chose pour ton enfant. Fait que ça, c'est un premier extrait qui m'a bouleversé, j'ai envie de dire. Les notes pour retrouver cet ouvrage-là hein, se retrouvent dans le guide de l'épisode. Je vous lis un autre extrait de Kafka, où il revient un peu sur quels peuvent être les objectifs ou la marche la plus haute à atteindre pour un individu. Alors, il écrit « Se marier, fonder une famille, accepter tous les enfants qui naissent, les faire vivre dans ce monde incertain, et même, si possible, les guider un peu. C'est là, j'en suis persuadé, l'extrême degré de ce qu'un homme peut atteindre. » Si vous comprenez cet extrait-là parfaitement, vous n'avez pas du tout besoin de l'épisode. Ce que Kafka veut nous dire, c'est que le monde est incertain, et puis que le degré de sophistication le plus élevé, c'est d'arriver à quelque chose qui peut nous sembler simple, mais on le verra, je ne crois pas que ce l'est. C'est l'éducation d'un enfant. Au-delà des contre-exemples et d'éviter le « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », ce qui est vraiment une catastrophe en éducation, qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer des enfants? Quels sont tes conseils, Pierre-Philippe? Ben voilà, je vous les livre en toute humilité. C'est un processus que j'ai pas complété. J'ai essayé de faire un épisode bref. Ça devrait être autour d'une trentaine de minutes. Je vous livre 5 conseils sur l'éducation des enfants avec des références. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je ferai peut-être d'autres épisodes dans la lignée sur l'éducation des enfants. Mais voilà un essai. J'espère que vous allez apprécier votre écoute. Alors, premier principe que je recommande, toujours garder en tête qu'éduquer est un problème complexe. Éduquer quelqu'un est un problème complexe. Il faut se le dire et se le redire encore. Quand je regarde les élèves qui me posent une question sur l'éducation des enfants, 95% du temps, sans surprise, c'est souvent une mère, souvent un retour aux études, quelqu'un qui est largement impliqué dans la vie d'un enfant. C'est important de se rappeler la complexité de l'éducation, la complexité de cette question-là, parce que souvent, les mères en ont énormément sur les épaules, elles ont souvent le gros des tâches ménagères. Bref, la famille repose sur les épaules de ces femmes-là. Le réflexe, c'est d'essayer de trouver ce que les Américains appellent un « magic bullet », une espèce de solution magique, un « one size fits all » pour l'éducation. Alors, que faire pour que mon enfant échappe aux tendances post-modernes de produire des individus extrêmement fragiles, un peu trop sensibles, qui ne savent pas trop où ils vont dans la vie? Alors, avant d'essayer de donner une réponse, je crois qu'il faut considérer la complexité de la question. J'ai un ouvrage sous la main à la maison qui s'appelle « The Checklist Manifesto » de l'auteur Atul Gawande. Alors, j'ai peut-être massacré son nom. Je vais mettre les références dans les notes de l'épisode. À la base, l'ouvrage ne porte pas là-dessus, mais il y a un extrait qui porte sur la complexité des problèmes. Et c'est ce passage-là qui est fascinant. L'auteur cite deux professeurs de l'Université de York, Brenda Zimmerman et Shalom Globerman, qui ont étudié la science de la complexité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chercheurs-là vont catégoriser les problèmes en 3 catégories. La première catégorie de problèmes, c'est ce qu'on appelle les problèmes simples. C'est quoi un problème simple? C'est, par exemple, faire une recette de muffin. Tu veux faire une recette de muffin? Ben, ça tombe bien, il y a une recette qui existe. Il y a quelques techniques que tu as à maîtriser. Battre les œufs, par exemple, dans le cas d'un gâteau, peut-être plus, là. Bref, battre les œufs, mélanger les ingrédients ensemble. Tu suis la recette, tu appliques les techniques, tu as un très haut taux de réussite. Alors ça, c'est les problèmes simples. Une autre catégorie, c'est ce que les chercheurs appellent les problèmes compliqués. Un problème compliqué, ça peut être quoi? Ça peut être envoyer une fusée dans l'espace. Tu veux envoyer une fusée dans l'espace, tu peux peut-être décomposer ton problème compliqué en plusieurs problèmes simples. Alors, il y a peut-être plusieurs recettes à suivre. Cependant, c'est un problème qui est considéré comme compliqué parce que c'est un long processus, ça demande de la coordination, ça demande plusieurs équipes de travail, ça demande un certain timing, il y a des mélanges à faire, il y a plein d'éléments à considérer, quand même beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver dans ta réponse au problème compliqué. Tout ça pour arriver à faire décoller ta fusée et l'envoyer dans l'espace. Évidemment, avec le temps, quand tu répètes ta réponse au problème compliqué, tu peux améliorer le processus, ton taux de réussite peut s'améliorer, d'une fusée à l'autre, c'est comparable. Ça reste un problème compliqué. C'est pas tout le monde qui peut arriver à envoyer une fusée dans l'espace. Et c'est très bien ainsi. Fait que ça pourrait être la catégorie des problèmes compliqués. Dernière catégorie, et c'est là la réponse au sujet qui nous concerne. Les problèmes complexes. Et l'exemple que donnent les chercheurs est très, très parlant dans notre cas. L'exemple qui est donné, c'est l'éducation des enfants. Alors, pour éduquer quelqu'un, pour élever un enfant, il n'y a pas de recette qui existe. Il n'y a pas de manuel clair et d'étapes très, très claires qu'on peut parcourir et qui donne un taux de réussite de 100%. Ça n'existe pas. Et pourquoi ça n'existe pas? Parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant est unique. Chaque enfant répond différemment à son éducation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'avoir des principes de fond. C'est ce que je vais essayer d'aborder dans les autres principes que je vais essayer de vous donner. Cependant, il faut considérer qu'éduquer un enfant est un problème complexe. C'est possible d'éduquer un enfant convenablement, mais c'est complexe. Les résultats sont toujours incertains. En ce sens-là, il y a une probabilité que tout ce que je vais dire, en fait, ne s'applique pas du tout à votre enfant. Ce qui est un peu hilarant parce que finalement, ça ne sert à rien d'essayer de chercher pour son enfant de manière spécifique parfois. Donc, votre expérience personnelle va être significative. Tu peux élever 3 enfants, avoir très bien réussi. C'est une expérience qui est importante. Je salue toutes les mères et les pères qui sont parvenus à une telle tâche. Cependant, ce n'est pas une garantie de succès pour les autres enfants que tu vas rencontrer. Même chose dans l'éducation. En fait, dans ma profession, comme professeur, des fois, je suis le meilleur professeur pour certains étudiants, certaines étudiantes. D'autres moments, j'ai l'impression que je suis le pire pour un autre. Tout simplement parce que mes méthodes, ma manière d'être, ma manière d'essayer de chercher les élèves ne les rejoint pas. Il ne faut pas se flageller avec ça. Il faut tout simplement considérer que c'est un problème complexe. Leçon numéro 2, ou le principe numéro 2, vos enfants ne sont pas vos enfants. Un extrait de l'ouvrage Le Prophète de Khalil Gibran. Une femme qui tenait un nouveau-né contre son sein dit « Parle-nous des enfants ». Il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de la vie pour elles-mêmes. Ils passent par vous mais ne viennent pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même en rêve. Vous pouvez vous efforcer d'être semblable à eux, mais ne cherchez pas à les rendre semblables à vous, car la vie ne revient pas en arrière et ne s'attarde pas avec le passé. Vous êtes les arcs à partir desquels vos enfants, tels des flèches vivantes, sont lancés. L'archer vise la cible sur la trajectoire de l'infini, et il vous courbe de toutes ses forces afin que les flèches soient rapides et leur portée lointaine. Puisse votre courbure dans la main de l'archer être pour l'allégresse. Car de même qu'il chérit la flèche en son envol, il aime l'arc aussi en sa stabilité. Quel extrait incroyable du prophète. J'adore ce passage-là. J'entends déjà plusieurs de ma tante capoter. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mes enfants, c'est pas mes enfants? Bon, calmez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants n'ont pas, comme c'est dit dans l'extrait, à te ressembler. C'est une tendance de parents beaucoup trop forte que d'être tellement attaché au développement de l'enfant que, par moment, et c'est plus fort que nous comme parents, ça m'arrive de le faire, on se projette dans la vie de l'enfant. Puis des fois, dans notre discours, on traite l'enfant comme s'il nous devait quelque chose. « Fais pas ça, je suis pas de même, c'est pas moi, on fait pas ça. » Il y a une part de ça qui peut être bien appliqué, il y a une autre part où ça s'apparente à du rejet de l'enfant parce qu'il ne nous ressemble pas. Alors effectivement, je trouve que par moment, quand on est trop attaché de proche au développement de l'enfant pour qu'il nous ressemble, on a tendance à lui nuire. Alors que faire? Ce que je propose, c'est une forme de détachement, mais il y a moyen d'être détaché tout en restant très très impliqué. Comment on fait ça? Il y a plusieurs outils qui existent. Déjà, le premier moteur, j'ai envie de dire, c'est toujours se rappeler qu'il faut inspirer l'enfant. Alors, comme l'arc tendu, comme c'est dit dans l'extrait, c'est mieux dit que tout ce que je peux dire, hein? On essaie d'inspirer l'enfant, de lui donner une énergie incroyable pour qu'il se propulse. Et il se propulse dans quoi et comment? Il n'y a pas de prescription claire. Voir le principe numéro 1, éduquer c'est un problème complexe. Alors, comment on se détache? Comment on l'inspire? Ben, ça peut être par la danse, ça peut être par le mouvement, ça peut être par l'art, ça peut être par la parole, ça peut être par le sport. Faut pas fermer des portes à l'enfant. Faut l'exposer Hein? Un peu comme ce que j'ai écrit sur le blog sur les blessures, le fait de respecter les blessures. Pour moi, c'est personnel, une bonne éducation entr'ouvre un maximum de portes à l'enfant. Alors, les portes devant l'enfant sont entr'ouvertes. On l'aide à entr'ouvrir la porte, mais on le laisse pousser pour entrer à l'intérieur. On le soutient, on le motive, mais on le laisse faire les pas pour passer la porte. Alors, on ne fait pas à la place d'eux et on ne garde pas de porte fermée. Et je crois que de cette manière, l'enfant peut aller chercher le maximum dans son développement et finir très, très riche d'expériences variées qui vont lui apprendre à se connaître et le motiver à aller plus loin. Il y a un livre qui existe et là, c'est très rare que je fais ça, mais je vais référer un livre que je n'ai pas lu. Alors, outrage, mais je vais le faire quand même. Parce que ça semble trop à propos. J'ai entendu plusieurs émissions de radio là-dessus. Je vais mettre un lien vers une d'entre elles qui réfère au livre. C'est une psychologue américaine qui s'appelle Alison Gopnik qui a publié récemment un livre intitulé The Gardener and the Carpenter, Le jardinier et le charpentier. Et dans le livre, en fait, ce qu'elle avance, c'est que le parent, tout comme le jardinier, doit cultiver son enfant tel qu'il est, sans le forcer à pousser d'une manière particulière. Alors, c'est très proche pour moi de ce que propose Khalil Gibran, de manière moins poétique, beaucoup plus pratique, et en plus c'est une prof de psycho. Alors c'est très intéressant. Le modèle plus traditionnel du parent charpentier cherche à bâtir l'enfant. L'enfant devient comme une espèce de chantier de travail. On l'inscrit à des cours, puis on vise une espèce de performance fixe. Alors plutôt que de viser quelque chose de très très fixe dans l'éducation de l'enfant, on essaie juste de le lancer dans la bonne direction, en fait, par de l'énergie, la bonne direction. C'est lui qui va la trouver par essai-erreur, par expérimentation, en découvrant le monde, en passant le pas à travers toutes les portes qu'on lui entrouvre. Je trouve que ce principe-là est absolument inspirant pour éduquer un enfant. Alors, vos enfants ne sont pas vos enfants. On veut plutôt les inspirer. Ce serait le deuxième principe ou le deuxième conseil que je donnerais pour l'éducation d'un enfant. Troisième conseil ou principe. Être un parent fort. Faut être un parent fort ou un parent inspirant. C'est très proche du deuxième principe, mais c'est un peu différent. Alors, une fois qu'on a accepté qu'éduquer, c'est un problème complexe, on a accepté que notre enfant, c'est pas notre enfant, il doit pas être une extension de nous-mêmes, faut être un parent inspirant. Comment les enfants apprennent? Les enfants apprennent par imitation. Puis vous le savez, si vous avez des enfants à la maison, parfois, le ton sur lequel tu dis quelque chose est plus important que ce que tu dis. Alors même si tu veux dire des paroles positives à un enfant, si tu le dis sur un ton de colère, il peut en retenir de la peine parce qu'il retient le contexte, il s'imbibe du contexte. Hein? C'est des petites éponges dans ce sens-là, les enfants. Alors ils apprennent énormément par imitation. Qu'est-ce qu'ils imitent en partant dans la vie? Ben, vous savez, ils imitent leurs parents. Alors je pense qu'il faut toujours se rappeler, j'essaie de me le rappeler, c'est pas toujours facile. Faut que je sois l'adulte que je veux que mon enfant devienne. Est-ce que je suis l'adulte que je veux que mon enfant devienne? J'essaie de l'être, puis j'essaie d'être ça sans tenter de lui imposer cet adulte-là. Je veux peut-être qu'il soit une version améliorée de cet adulte-là ou sa version à lui. Encore une fois, fait que je respecte l'idée de le propulser à l'avant en étant une source d'inspiration permanente pour cet enfant-là. Fait que c'est un parent. Pour moi, c'est un parent qui propose, c'est un parent qui pointe dans la bonne direction. Fait que ce que je fais, j'essaie de jamais éteindre mon enfant. Dans les petits trucs que j'utilise, moi, j'essaie toujours d'enseigner à mes enfants que le contexte ne peut pas les définir. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai le sentiment qu'on est dans une société, spécialement au Québec, où les gens se plaignent beaucoup. Les gens souffrent quand il fait trop froid. Ah, il fait froid, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Sauf quand il fait trop chaud. Oh non, il fait trop chaud, c'est collant, bla 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 bla. On veut une espèce de température parfaite, un contexte parfait, une job parfaite. Tout ça arrive jamais. Puis on laisse notre morale être affectée par ça. Évidemment, c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Ce que je veux que mes enfants retiennent, et si je suis capable de leur transmettre en l'appliquant moi-même dans ma vie, tant mieux. Moi, c'est ce que je choisis. Je veux leur transmettre qu'il y a des contextes difficiles, mais il y a quand même la possibilité de réussir et de progresser dans un contexte qui est difficile. Comment je le fais? Comme plusieurs d'entre vous le savent, j'ai un enfant qui est en bas âge à la maison, un 3 ans. Ce que je fais avec mon 3 ans, c'est que quand je lui parle de la journée, je lui dis toujours que c'est une belle journée. Et je ne suis pas jovialiste pour autant, là. Alors, quand il y a une pluie battante dehors, ça arrive, je dis, c'est une belle journée de pluie, c'est une belle journée de froid, c'est une belle journée ensoleillée, et ainsi de suite, c'est une belle journée grise. Et ensuite, on explore les possibilités. Alors, si mon enfant veut aller à l'extérieur, par exemple, et faire de la craie sur le sol de couleur, puis que c'est une journée où il y a une pluie battante frette, alors il fait froid dehors, puis on est dans pluie battante, ce que je lui dis, c'est, ben, faut s'habiller comme il faut. Je lui dis oui en partant, hein. Oui, mon enfant, faut s'habiller comme il faut, faut trouver un endroit sec, ça se peut que ce soit au parc ou qu'on trouve un endroit qui est couvert. Si tu es capable de passer à travers la pluie, on va pouvoir en faire de la craie. Papa, il va être avec toi. Fait que je l'accompagne, voyez, je lui entrouvre une porte et je lui vais ensemble et je ne me plains pas. J'y vais avec, je ris, on essaie de passer à travers. Si c'est trop dur, c'est possible qu'on revienne à la maison, hein, revirer de bord. Ça arrive. Cependant, il me voit faire les pas, pas me plaindre, essayer, considérer le contexte, mais me donner la possibilité quand même d'agir et d'avancer et puis de réaliser quelque chose. C'est ce que je veux pour les enfants. Alors, je laisse pas le contexte le définir. Même chose qui est un peu contre-intuitif pour être un parent fort. J'essaie souvent de pas me plaindre. Et puis, la leçon que j'essaie de transmettre aux enfants, surtout quand ils ont des blessures ou des peines, j'essaie de faire en sorte qu'ils changent leur point de référence. Alors, que les enfants changent leur point de référence. Ça fait partie de ce que c'est pour moi d'être un parent fort. Ce que je veux dire par changer le point de référence, on a tous eu une mauvaise journée quelque part, une journée où on a vécu un deuil, une journée où on s'est pété la gueule, une journée où il n'y a rien qui s'est passé comme il faut. Et après ça, quand on considère que d'autres événements sont pas si pires que ça, c'est souvent en comparaison à cette journée-là. Fait qu'en fait, les journées malheureuses sont précieuses parce qu'ils t'aident à changer ton point de référence. Donc, quand mes enfants ont des malheurs, j'essaie de faire en sorte qu'ils en gardent un souvenir pour le porter avec eux, pour que quand ils vivent quelque chose, d'autres difficultés, ou même un bonheur, qu'ils se souviennent de cette journée-là, puis qu'ils se souviennent que maintenant ils sont rendus ailleurs, qu'ils ont fait des pas. C'est pour ça que dans ma vie personnelle, j'ai tendance à m'entraîner, puis des fois m'entraîner très fort le matin. Après, il n'y a plus personne qui peut rien me faire, ni dans une réunion d'équipe, ni à mon travail, ni un élève désagréable. J'en ai tellement bavé, j'ai envie de dire, à l'entraînement, que mon point de référence est changé. Fait qu'après ça, le reste de ma journée se passe bien. Donc, troisième leçon, troisième principe, être un parent fort, pas se plaindre, ne pas laisser le contexte définir l'enfant, et idéalement, lui apprendre à changer son point de référence. Quatrième leçon ou principe, quand on parle de l'éducation des enfants, ou mes conseils sur tout ça, j'irai avec une phrase que quelqu'un me dit, « On est tous abîmés par notre éducation. » Alors, ça vaut la peine d'être répété. Tout le monde est abîmé par son éducation. Cette phrase-là, elle me vient de Bernadette Baouin, qui est une sociologue qui m'a enseigné à l'Université de Montréal. C'est une professeure qui a été prêtée à l'Université de Montréal et qui est venue nous donner quelques cours. Sociologue de la famille, elle était très, très intéressante. Et cette phrase-là m'a profondément marqué. Quand elle nous parlait, elle avait tendance à soutenir que peu importe ce que tes parents font, dans un sens ou dans l'autre, ils finissent par t'abîmer. Il y a quelque chose qui nous est dit, qui nous reste de trop. On s'est tous sentis un peu brimés ou incompris par nos parents. Il y a un élan ou une imitation qu'on n'a pas réussi à faire. Quelque chose qui ne s'est pas rendu. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Pensez à Franz Kafka, l'extrait que je vous ai lu en ouverture d'épisode. C'est quelqu'un qui a été abîmé par son éducation. Ben, on l'est tous. Et pour moi, devenir adulte, c'est faire la paix avec les blessures qui sont dans notre éducation. Fait que tôt ou tard, je crois que tu as à te présenter à tes parents, puis les regarder comme des adultes, et faire la paix avec tes blessures. Arriver à les remercier pour ce qu'ils t'ont apporté, puis arriver, j'ai envie de dire, à faire la paix. Si c'est pas pardonner, c'est au moins faire la paix avec les blessures que l'éducation t'a infligées. De la même manière, tôt ou tard, nos enfants vont se présenter à nous avec des blessures qui sont réelles. Des blessures, des fois, peuvent être accidentelles. Il faut, à ce moment-là, les aider à faire la paix, accepter, j'ai envie de dire, leurs reproches, ça passe beaucoup par l'acceptation, ce que j'appelle l'acceptation radicale, là, parce qu'il parle de son vécu, tant que c'est pas évidemment là, du délire accusateur. Alors, comment il a interprété son éducation, il faut contribuer à ce qu'il fasse la paix. Le but de l'éducation, c'est de produire des adultes autonomes qui sont capables eux-mêmes de reproduire une famille. Fait qu'il faut toujours s'en rappeler, hein? L'éducation, c'est un problème complexe. Nos enfants ne sont pas nos enfants, doivent pas être une caricature de nous-mêmes. Faut être un parent fort pour les inspirer. Malgré tout ça, j'ai la conviction que chaque parent abîme quand même en quelque sorte son enfant. Et faut apprendre à l'accepter et faire la paix. À cause de la nature du problème, évidemment, on abîme un peu l'enfant. Donc, faut l'accueillir là-dedans et accepter ce principe-là. C'est très court, mais je trouve ça fort utile des fois pour me pardonner mes échecs qui sont inévitables dans l'éducation. Alors, quatrième principe ou leçon, on est tous abîmés par notre éducation. Dernier principe, dernière leçon, en terminant, ne pas être la voix de la peur, ne pas être une voix négative, ne pas être la voix d'un système qui oppresse son enfant. Souvent, là, quand je parle de l'éducation des enfants en classe, tôt ou tard, un élève me regarde et lève une objection. Ben là, Pierre-Philippe, tout ça, ça va se perdre au CPE. Si l'enfant est éduqué à l'envers, il va avoir des difficultés à s'intégrer à l'école, ça marchera pas, ça va faire de la chicane dans la belle famille, bla 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 bla. J'ai pas de réponse magique à ça. La question, en quelque sorte, des fois, c'est un peu, mais comment tu fais pour échapper à la société? Tu n'échappes pas à la société. Évidemment, voir le principe numéro 4 ou la leçon numéro 4, on est tous abîmés par notre éducation. Peu importe, votre enfant va payer le prix de son éducation. Si pour payer le prix de son éducation, peu importe ce qui arrive, j'ai envie de vous dire aussi bien que le prix payé en vale la peine. Gardez la leçon qui est utile. Alors, comment on fait? On tente encore une fois de notre mieux de répondre à un problème complexe. Donc, la leçon de base, quand je dis pas être la voix de la peur, c'est souvent quand un enfant entreprend une nouvelle activité. Parce que vous savez, on lui en trouve des portes. Alors, on l'expose à plein d'activités nouvelles. Quand il entreprend quelque chose, il se tourne vers le parent et il veut savoir quoi faire ou comment se lancer dans l'activité. Et il y a beaucoup de parents, et là, j'essaie de pas culpabiliser les mères, là, mais quand je vais au parc, c'est surtout des mères qui sont avec les enfants. Les pères auraient à être plus là, là, c'est évident. Alors, avec les enfants, autour d'un module de jeu. Et souvent, le comportement que je vois et que je note, c'est que les mères servent toutes sortes d'avertissements, souvent inutiles aux enfants. Des avertissements qui s'apparentent souvent à de la peur, qui est une peur inculquée à l'enfant. J'appelle ça le réflexe du corbeau ou de la corneille, là. Alors, il y a des hommes aussi qui le font. Alors, l'enfant veut monter dans la glissade. Monte pas dans la glissade! L'enfant veut jouer avec une branche. Joue pas avec la branche, tu vas te crever un œil! Ainsi de suite. On a des avertissements surtout, saute pas trop haut, fais attention, tu vas te casser une jambe, tu vas tomber, gna 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 gna. Je suis d'accord avec les avertissements quand on dérange quelqu'un d'autre. Cependant, il va falloir se le dire, là, un module de jeu, il n'y a pas de règlement là-dedans. Tu peux bien monter la glissade à l'envers, puis apprendre que, oui, tu peux te faire une petite blessure, ce qui est utile. Ta glisse sur le ventre, ça abedaine à pleine face. Écoute, tant que le dommage n'est pas important, je trouve qu'il y a un apprentissage qui est intéressant, puis tu apprends à être créatif. T'apprends à faire quelque chose, t'apprends à bouger ton corps. T'as pas besoin d'avoir une voix dans ta tête tout le temps négative. Vous connaissez ça, ces personnes-là, là? Il y en a autour de vous. Tu leur annonces une bonne nouvelle, ils te répondent par quelque chose de négatif. J'ai eu une augmentation de 15 000 $, j'ai un nouveau poste. Mais attention, l'impôt va te ramasser. Ainsi de suite. Je tombe en amour, je rencontre quelqu'un de formidable. Tu le connais pas encore, il se prépare quelque chose. Tout le temps quelque chose de négatif. Une espèce de voix dans ta tête négative qui t'avertit des dangers, de ce qui peut mal se passer, plutôt qu'une voix qui motive. Je vous invite à ne pas être une voix négative dans la tête de vos enfants. Soyez une voix positive. Tu peux dire « fais attention », mais pousse avec quelque chose. Pousse avec quelque chose de positif. Pas le féliciter pour tout, ça c'est un autre impact qui peut être négatif, mais quand même, le motiver, j'ai envie de vous dire, pratiquement en toute chose, dans la mesure où le danger n'est pas trop grand et où l'enfant ne dérange personne. Évidemment, on a tous la peur que notre enfant soit exclu des autres, qu'il ne s'intègre pas bien, que ce soit au centre de la petite enfance, à la garderie, à l'école. Tu ne peux pas vraiment y échapper. Moi, j'essaie toujours de semer le doute dans la tête des enfants, si on est capable. Alors, semer le doute, je l'avais dit dans un autre épisode, là. Ma belle-fille, par exemple, me montre comment elle s'habille. Elle me dit « je suis belle aujourd'hui ». Je lui réponds presque toujours « être belle, c'est bien, mais être bien, c'est mieux. » Quand elle va entreprendre sa course vers la beauté, comme le font beaucoup d'adolescentes, pour plein de raisons, il va toujours avoir ma voix pour lui rappeler qu'être bien dans sa peau, qu'être bien dans l'acceptation de soi, c'est mieux que d'essayer d'être belle. C'est mon interprétation. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais toutes ces petites graines-là, j'ai envie de dire, qu'on sème et qui poussent plus tard, ça peut y donner des réponses, ça peut l'inspirer. Puis je crois que c'est profondément vrai. Fait qu'en toute chose, quand je suis pas nécessairement capable d'échapper à ma société, j'essaie à tout le moins de semer le doute dans les croyances de mes enfants, surtout dans celles des fois genrées ou les croyances chargées qui m'arrivent du CPE ou de l'école ou d'ailleurs. Des fois involontairement, vous le savez, les adultes transmettent toutes sortes de messages, puis les enfants entre eux, évidemment, s'apprennent toutes sortes de choses. Alors à chaque fois, je sème le doute. Dernier élément pour pas être une voix négative pour son enfant, pas être la voix de la peur, pour pas tout simplement être la voix de la peur, dans ma pratique, dans mes efforts éducatifs avec les enfants, j'essaie d'être un exemple, leur montrer que moi-même, ce que les autres pensent de moi, dans la mesure du respect, évidemment, je m'en soucie peu, que, effectivement, dans mon côté excentrique que je reconnais, je peux les affecter, je peux parfois, oui, les troubler, parfois peut-être les blesser involontairement. Je le dis, je l'assume, je leur propose autre chose, puis j'essaie en toute chose un peu de m'accompagner du doute dans tout ça, à travers la route, puis qu'ils puissent se tourner vers moi, puis se dire, ben, mon parent, ce parent-là, était un peu étrange par moment, mais toujours aimant, toujours inspirant et toujours présent. Nous sommes à la fin du deuxième épisode. Je donnais des conseils sur l'éducation des enfants, une question qui m'est souvent demandée en classe. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Je récapitule. Alors, premier conseil, toujours considérer la complexité de la tâche, alors la complexité d'élever un enfant. Il n'y a pas de garantie. Deuxième principe ou leçon, vos enfants ne sont pas vos enfants, alors il ne faut pas les forcer à être exactement comme nous. C'est une erreur. Troisième principe ou leçon, soit un parent fort, un parent inspiré, les enfants apprennent par imitation, soit l'adulte que tu voudrais que tes enfants soient plus tard. Quatrième leçon ou principe, on est tous et toutes abîmés par notre éducation, alors il faut apprendre à faire la paix avec l'éducation que nous, on a reçue, et faire la paix avec l'éducation qu'on donne et les blessures involontaires qu'on peut infliger aux enfants. Tôt ou tard, ils vont venir nous voir. Je crois sincèrement qu'il faut les accueillir. Dernière leçon, pas être une voix négative pour l'enfant, pas être une voix d'un système qui oppresse, essayer de ne pas reproduire les inégalités qui sont ambiantes, malgré le fait que ça va générer des tensions, effectivement, dans le système scolaire et ailleurs dans la société. Je pense quand même que pour changer le monde, il faut faire des enfants qui voient le monde et qui vont plus loin que nous. J'espère sincèrement que vous avez apprécié l'épisode. On se retrouve bientôt.